La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous allons évoquer ce soir avec Laure Lamarre-Flores, qui est directrice du Centre Fernand Léger à Port-de-Bouc. Port-de-Bouc se situe dans les Bouches-du-Rhône, à une demi-heure environ en voiture de la ville de Marseille. Et nous allons aborder avec vous, Laure, l'activité de ce centre d'art que vous dirigez et qui a une particularité intéressante puisqu'il est multitâche, multidisciplinaire. Je crois de mémoire qu'en fait, dans ce centre, vous accueillez des artistes en résidence. Il y a des cours de pratiques artistiques qui sont prodigués à un public enfant, adolescent, adulte. Et enfin, une autre caractéristique du centre d'art, c'est l'organisation régulière d'expositions. Et je crois qu'à ce titre, vous êtes membre d'un réseau important que vous nous exposerez tout à l'heure. Bonjour Laure.
Bonjour Bertrand.
Laure, j'étais rapide, mais est-ce que j'ai un peu évoqué toutes les activités que vous pratiquez dans le centre d'art et est-ce que vous pouvez rapidement nous dire quelle est sa spécificité et à quel type de public il s'adresse en particulier?
Alors oui, je pense que le résumé était parfait. On peut peut-être compléter tout ça par le fait que nous sommes situés aussi dans un joli château en bord de mer, donc c'est pas négligeable, hein. C'est un endroit très 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 agréable. Alors, la description était assez claire, c'est-à-dire que la spécificité, je pense, de notre établissement, c'est qu'en fait, s'interpénètrent les trois missions générales que vous avez évoquées et qui sont l'enseignement des arts, effectivement, à un public amateur, enfant, adolescent et adulte, et également la diffusion de l'art par nos expositions, notre programmation d'exposition et l'encouragement à la création contemporaine que nous favorisons à travers les résidences d'artistes. Alors, d'une manière générale, c'est vrai qu'on envisage notre manière de nous adresser à notre public de la façon la plus large. On a vraiment des logiques d'égal accès à la culture et on met sur un même plan l'attractivité locale et extérieure à la ville. Donc, d'une manière très générale, hein, on a des publics qui sont très variés. On a évidemment les artistes que nous recevons, les professionnels de l'art en tout genre que nous sollicitons pour tel ou tel projet. Nous avons bien entendu les élèves amateurs de notre école d'art. On en a environ 150 à l'année. Alors l'année 2020 aura été un peu particulière, je pense qu'on va en reparler après. Donc nous accueillons ces élèves à partir de 4 ans directement au centre d'art. Mais depuis cette année, on est aussi intégré à un dispositif de l'État qui s'appelle la Cité éducative et qui nous permet aussi d'intervenir directement dans les crèches, donc avec un public qui est beaucoup plus jeune, avec des tout-petits. On travaille aussi très étroitement avec les scolaires hein, pour plein de projets différents, que ce soit au niveau de l'école d'art, mais aussi plus largement hein, au niveau des résidences ou des expositions. On a d'ailleurs un conventionnement avec l'éducation nationale et la Cité éducative, j'en parlais à l'instant. On travaille beaucoup avec les centres sociaux, les centres de loisirs, les structures culturelles, d'autres structures aussi dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle. Et puis bien sûr, ne pas oublier tous nos visiteurs qui sont néophytes ou pas hein, d'ailleurs et qui suivent nos différents projets. Voilà.
Merci Laure. J'ai une question à propos de... Bah, j'ai plusieurs questions bien sûr, mais j'ai une question à propos du public, le public qui pratique les arts plastiques. Il se répartit en tranches d'âge de quelle manière?
Alors effectivement, donc là c'est assez précis au niveau des enfants, c'est-à-dire que au niveau des enfants, on va avoir des tranches d'âge qui sont très très réduites. On va démarrer à 4 ans mais on va faire des tranches de 4 à 6 ans, puis de 7 à 10 ans, puis de 11 à 13 ans et enfin de 14 à 18 et à partir de 18, on est sur un public adulte. Voilà.
Et dans ce public, dans ces publics, si on fait une distinction entre c'est un peu à la serpe, mais les moins de 18 ans représentent à peu près quelle proportion, les personnes dites actives représenteraient quelle proportion et les seniors dits à la retraite représenteraient quelle proportion du public que vous accueillez?
Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est vrai qu'on régulièrement dans nos bilans, on regarde un petit peu ces chiffres parce que ça nous donne pas mal d'enseignements. Donc, on est à peu près à moitié-moitié entre la répartition enfants, donc moins de 18 ans, et adultes. Donc 50% de nos effectifs sont des moins de 18 ans et le reste, ce sont des adultes. Et après, au niveau du pourcentage entre actifs et inactifs, je dirais quand même qu'on a à peu près 30% d'inactifs, dans la mesure où on a pas mal de cours qui sont en journée, en semaine, et donc accessibles essentiellement à ce type de public-là. Et après, 20% pour les actifs, donc qui viennent prendre leurs cours à partir de 18h le soir. En temps normal, bien sûr.
Oui, merci beaucoup. Non, c'est toujours important de préciser ces chiffres quand on évoque la pratique amateur, parce qu'on s'adresse par définition à tout public. Et bien sûr, on a affaire à des publics qui n'ont pas le même rythme de vie. Et donc, c'est toujours intéressant à analyser, parce que grand public, c'est toute la cité. D'ailleurs, est-ce qu'il y a aussi une proportion de gens, disons, rappelez-nous, pardon, mais Port-de-Bouc, c'est combien d'habitants ?
Alors, Port-de-Bouc, c'est 17 000 habitants.
17 000 habitants
environ.
D'accord.
Oui.
Et est-ce que, j'imagine que la majorité des élèves fréquentant le centre Fernand Léger, ce sont des habitants de Port-de-Bouc ?
Oui, c'est ça aussi notre grande fierté, si on peut dire, parce que Port-de-Bouc, c'est une ville qui a un passé historique, donc social, culturel, qui est assez particulier. La culture a eu beaucoup d'importance tout au long de son histoire, mais on est sur des tranches de population qui ont un fort taux de chômage, hein, qui sont assez, assez éloignées, a priori, de cette culture. Et donc, on a à peu près 70% de nos adhérents qui sont des Port-de-Bouquins et des Port-de-Bouquaines. Donc ça, c'est très chouette. Et après, on a le 30% restant des personnes qui viennent des villes alentours et jusqu'à Marseille. Hein. On a des personnes qui viennent de Marseille exprès.
Merci. Toujours dans les chiffres, parce que j'avais pas prévu d'insister là-dessus, vous avez des ratios hommes-femmes ?
Alors oui, là aussi, c'est toujours très parlant, effectivement. Là, on a une très grande proportion de femmes, hein, qui fréquentent le lieu. Là, je dirais, un peu de la même manière, ça serait du 70-30%. 70% femmes et 30% hommes environ.
Ah oui, c'est très... Enfin, je ne m'attendais pas à un tel déséquilibre.
Je suis
surpris. Vous avez des... Non mais, alors, je suis surpris. À la fois, je sais que sur, par exemple, le public senior, naturellement, du fait de la démographie des seniors, il y aura une proportion plus importante de femmes.
Absolument. Mmh, tout à fait.
C'est une donnée évidente. Par contre, sur les enfants, j'imagine que c'est quand même un peu plus équilibré, non ?
Alors, mais pas tant que ça. En fait, c'est ça qui est assez fou, parce qu'on a même des groupes. Là, je pense par exemple à nos... On a deux créneaux de 7-10 ans. Et l'un des deux créneaux, où on a à peu près en moyenne, hein, une dizaine, entre 10 et 12 élèves, un parcours, il est exclusivement féminin. Donc non, en fait, c'est pas si équilibré que ça. On a quand même une grande majorité de filles qui fréquentent nos cours.
C'est peut-être un peu stupide de ma part. Y a-t-il une explication à ce phénomène sur la tranche des enfants, ce déséquilibre dans les petits garçons ?
Alors, j'avoue qu'on l'a pas forcément analysé en tant que tel, donc je vais peut-être partir sur des explications qui seraient pas réelles. Mais c'est vrai que d'une manière générale, là, en tout cas sur la ville, on souligne des clivages peut-être un petit peu désuets et un petit peu anciens au niveau des activités qui seraient, je parle bien au conditionnel, plus particulièrement pratiquées par des filles ou des garçons. Par exemple, on a, quand on fait la comparaison avec nos collègues des associations sportives, on se rend compte que là, par contre, à l'inverse, on a énormément d'inscriptions garçons. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vient des parents. Ça, on ne l'a pas forcément analysé. Après, au niveau de l'appétence, c'est vrai que bon, les arts plastiques, hein, on est sur des pratiques, on va dire, de manière assez générale, assez introspective. Même si on est dans le collectif, on se pose. On a un temps aussi de travail un peu plus au calme. Et c'est vrai que peut-être de façon... je ne sais pas, j'ai du mal à l'analyser, mais c'est vrai qu'on a une plus grande part de filles qui fréquentent nos cours. Mais on a des garçons quand même, donc c'est signe quand même que ça les intéresse, heureusement. mais c'est vrai que c'est pas forcément facile à analyser. Peut-être qu'il y aurait un travail à faire au niveau de l'éducation, hein, proprement dite. Est-ce qu'il y a un discours assez clivant, activité fille, activité garçon ? Je sais pas du tout. Franchement, c'est vrai que ça serait à creuser.
Merci. J'ai aussi une autre question sur les publics, parce que j'insiste un peu là-dessus, mais c'est vrai que quand on a affaire à une personne comme vous qui est directement au contact des publics. C'est important qu'on en parle parce que vous les connaissez mieux que
Bien
moi.
sûr.
Justement. Et on n'en parle pas suffisamment peut-être. On n'en parle pas suffisamment, notamment dans la période actuelle. Que viennent chercher les publics et viennent-ils chercher des choses différentes ou des choses identiques en fonction de leur âge quand ils viennent pratiquer au centre d'art Fernand Léger?
Ouais, tout à fait. Alors oui, c'est ça qui est intéressant. Nous, on analyse maintenant depuis 8 ans que nous sommes ouverts déjà une intensification des inscriptions d'année en année. Donc, sauf pour 2020, tout à l'heure, j'en parlais. Hein. Évidemment, le contexte de la crise fait qu'on a environ 30% de nos adhésions habituelles qui n'ont pas été renouvelées. Hein. Donc, ça, c'est bien le signe d'une complexité de la situation et on n'en est pas encore sorti. Après, donc au niveau des apprentissages, on observe aussi des évolutions. On a certaines techniques, notamment chez les adultes, hein, qui de plus en plus prennent de l'ampleur. Je pense à la sculpture, la céramique, la photographie. On aimerait aussi beaucoup développer des nouveaux cours liés aux nouvelles technologies. Donc pour l'instant, on n'a pas encore les équipements adéquats, mais là, on est dans une phase aussi d'extension du centre d'art, ce qui est très positif, hein, ce qui montre justement cette activité en expansion constante, donc où on est vraiment sur des espoirs de pouvoir développer certains cours dans le futur. Alors pour l'instant, on n'a pas encore vraiment de visibilité sur ces nouvelles technologies, justement parce qu'on a encore au niveau de nos élèves, dans la manière en tout cas d'appréhender l'approche disciplinaire des arts, un côté assez classique. Pour autant, voilà, au niveau de la recherche de ces élèves, c'est ça qui est intéressant, c'est que ils n'ont par l'enseignement que les professeurs leur donnent, qui sont tous diplômés de l'École des Beaux-Arts, on est vraiment dans une dynamique d'enseignement très contemporaine où on vient chercher la notion d'expérimentation. Les professeurs poussent les élèves aussi à porter des regards très actuels sur la création contemporaine. Donc, on est très, très, on est très, très loin des champs de lavande et c'est précisément ce que les élèves cherchent. Et pour répondre à votre question sur l'évolution en fonction des âges, alors, effectivement, on a au niveau de la première période, donc je dirais les enfants, hein, on est vraiment dans l'ouverture, on est dans la découverte. Donc, on a plutôt des enseignements qui sont pluri-artistiques, hein, pluri-techniques. Donc, ils y font du dessin, de la peinture, du collage, de la photo, de la sculpture. Ils expérimentent énormément. C'est le moment où ils vont chercher une voie d'expression qui leur plaît. Ils n'ont pas d'a priori. Ils sont finalement assez sans limite. Hein. On peut les amener un petit peu partout. Ils sont très créatifs. C'est vraiment stimulant. Après, à l'adolescence, c'est un âge où forcément on commence à s'affirmer, on est aussi beaucoup plus conditionné par notre environnement. Il y a certaines barrières d'ailleurs qui peuvent arriver, on l'observe. Hein. Et assez curieusement, c'est là que la pratique du dessin devient quasi exclusive, même si on est toujours dans une appréhension plus globale de la pratique. On observe qu'ils sont vraiment très branchés dessin. Et encore, je ne parle pas de l'univers des mangas qui demeure encore très ancré. Ça aussi, pour nous, c'est assez drôle parce qu'on pourrait penser que c'est un petit peu dépassé. C'est souvent d'autres générations plus anciennes qui étaient friands de ces techniques de dessin. Mais non, ça continue. Donc, c'est une période où ils se cherchent un peu. Alors, peut-être que le travail de la ligne, moi, je m'interroge beaucoup là-dessus aussi, a un côté rassurant. On est ancré sur sa feuille. On se pose, on s'intériorise. Peut-être que ça correspond aussi à la pensée de ces adolescents. Et après, au niveau de l'adulte, on a des envies qui sont plus marquées, évidemment. Alors, parfois trop, hein, on tombe dans un travers un peu inverse. Et justement, il y a un gros travail d'accompagnement à l'ouverture. Les adultes ont souvent des appétences hein, qui sont très identifiées, très cadrées, très codifiées, qui sont souvent dues à l'expérience. Hein. On en a certains qui se sont imaginés travailler telle technique pendant des années ou au contraire qui la travaillent depuis vraiment longtemps et qui se sont un peu enfermés dans leur pratique. Et là, on a besoin de revenir à des fondamentaux aussi bien historiques que techniques et aussi à ouvrir sur la créativité.
Merci Laure, c'est très intéressant. J'ai une petite...
Tout à fait.
Ouais, pardon. J'ai une question sur, disons, les adultes, parce que c'est un public qu'on peut évoquer, c'est toujours intéressant d'évoquer la pratique amateur des adultes. Est-ce que la pratique au centre Fernand Léger favorise la fréquentation des musées, des expos? Est-ce que vous notez des évolutions dans la manière de voir de vos pratiquants?
Mais complètement, complètement. Alors en fait, on parle des adultes évidemment dans la pratique en elle-même des arts et tout ce travail d'ouverture. Là actuellement, je parle de ce qui est vraiment présent. On a forcément via les cours en visioconférence qu'on continue à donner, on est sur un retour aux pratiques plutôt techniques, hein, notamment de dessin, etc. Mais sinon, dans le courant de l'année et dans le fonctionnement habituel de la structure, on est vraiment dans une logique de projet. On les invite à aller voir des expos, à, en plus de leur apprentissage technique, apporter un regard sur leur création, à s'interroger sur les pratiques de leur temps. On les invite à tout remettre aussi en perspective dans une approche transversale et historique de l'art. Donc oui, il y a des évolutions. Et on a notamment, on en est très fiers, mais peut-être qu'on en reparlera après. Là, on n'est pas forcément sur de l'enseignement pratique, mais on a un dispositif que l'on suit depuis 5 ans maintenant, qui est le dispositif des nouveaux collectionneurs. Donc là où on accompagne en fait des bénévoles, des volontaires qui s'intéressent au monde de l'art mais qui n'en font pas directement partie, à apporter une analyse, un regard sur l'art contemporain et le patrimoine à la fois. Et là, typiquement, sur ce type de suivi, on observe une évolution mais qui est incroyable. C'est-à-dire que là, on leur demande par exemple aussi d'écrire des textes sur certaines œuvres qu'ils sont amenés à présenter, que ce soit des œuvres même du FRAC, hein, donc voilà, de très haut niveau. Et je pense qu'ils écrivent aussi bien que nous. Donc, que ce soit vraiment nos élèves en termes de pratique et puis, ces dispositifs comme ça, un peu plus ponctuels, d'accompagnement à la lecture de l'art contemporain, je pense qu'on est sur la bonne voie parce qu'on observe vraiment des évolutions et au bout de quelques années, on n'a plus les mêmes élèves que ceux qu'on avait au début, clairement.
Merci. Vous organisez des cours d'histoire de l'art ou vous proposez des cours d'histoire de l'art adaptés aux enfants ou aux adultes?
Alors, on n'a pas de cours d'histoire de l'art au sens strict, c'est-à-dire hebdomadaire, au même titre que les autres cours que nous donnons. Mais par contre, on a un cycle de conférences qui s'appelle les lundis de l'art et qui permet en fait tous les mois, le lundi donc, d'accueillir des spécialistes du monde de l'art, que ce soit des conférenciers, des historiens, des artistes, même des personnes qui travaillent aussi dans l'ombre des musées, que sont les restaurateurs. Enfin voilà, on accueille toutes sortes d'intervenants et on parle d'art évidemment. Donc ce sont des conférences qui sont en accès libre. Alors on invite évidemment nos élèves le plus possible à y accéder, mais on accueille aussi des gens de l'extérieur. Et donc c'est vraiment un moment qui est hyper important pour nous parce que c'est un complément théorique à ce qu'on apporte. Après, effectivement, ça s'adresse plus directement aux adultes, c'est sûr. Au niveau des enfants, non, on n'a pas de cycle vraiment proprement dit d'histoire de l'art, mais nos professeurs, justement, associent eux-mêmes, dans le cadre des enseignements à la pratique, des enseignements théoriques. Donc, ils leur montrent énormément d'artistes. Le rapport à l'histoire de l'art est toujours remis en perspective. Donc, c'est quelque chose qui se fait, on va dire, de façon infuse dans les cours de pratique.
Merci, Laure. J'ai noté aussi que sur le site, hein, puisque l'école dispose d'un... Le centre Fernand Léger dispose d'un site internet que j'invite tout le monde à découvrir. L'école est membre depuis donc 2017 de l'ANEAT. L'ANEAT, c'est l'Association nationale des écoles d'art territoriales de pratique amateur, date elle-même de 2015. Quelle est la force, quel est le bénéfice d'être intégré dans ce grand réseau national et quelle est la spécificité de Port-de-Bouc au sein de ce réseau, pardon.
Alors, ce réseau, il est extraordinaire. Nous, on a eu le privilège d'être à l'origine de la création du réseau, donc dès 2014. On a été approchés par différents directeurs de structures qui, commençaient à établir un répertoire des écoles qui n'avaient aucune visibilité à l'échelle nationale. Et puis, bon, on se disait, il va falloir quand même commencer à entamer des réflexions relative à la création d'un réseau qui permettrait justement de faire exister cette dernière strate des enseignements des pratiques amateurs, qui a bien trop longtemps été négligée auprès des pouvoirs publics, puisqu'il existe déjà l'ANDEA pour les écoles des beaux-arts et puis la PPEA, me semble-t-il, pour les prépas. Et il manquait en fait cette dernière strate au niveau des écoles territoriales qui n'ont pas de vocation à diplômer les élèves. Alors, donc nous, on était vraiment à l'origine des discussions, donc c'était vraiment passionnant. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est un maillage de structures avec des statuts très différents. On est des associations, des collectivités, enfin vraiment, il y a tous les formats. Et on réfléchit vraiment de concert à la mise en valeur des pratiques sans logique d'uniformisation, mais vraiment en laissant transparaître les spécificités propres de chaque territoire. Donc tous les directeurs se connaissent bien, on échange vraiment régulièrement sur beaucoup d'informations, sur nos pratiques professionnelles. Ça fait vraiment du bien de se sentir intégré à cette grande famille qui avance dans le même sens. Et justement, Port de Bouc, en termes de structure plutôt petite, voilà, pour nous, c'est vraiment très précieux. On s'y sent épaulé et vraiment soutenu.
Merci, c'est passionnant. Vous faites aussi, au sein du centre, vous assurez la programmation artistique des expos, si je ne me trompe pas.
Puisque, oui.
Donc, les élèves bénéficient de cette... C'est miraculeux parce qu'ils peuvent pratiquer et voir des expositions.
Tout à fait.
Il y a un vrai, un vrai échange entre les personnes que vous invitez à exposer dans le centre d'art et les élèves qui peuvent avoir un accès direct comme ça à des expositions d'art.
Absolument. Absolument. Alors, au niveau de l'orientation artistique, effectivement, c'est nous qui la gérons et je pense que c'est justement ça qui fait tout l'intérêt de cette structure qui mélange finalement au quotidien toutes ces missions, c'est que on fait vraiment dialoguer de façon étroite la programmation artistique avec le contenu des cours. Donc on fait se rencontrer au quotidien, hein, création professionnelle et pratique amateur. Pour nous, c'est une richesse, c'est un dialogue qui est vraiment important à préserver, puisqu'on bâtit vraiment la programmation d'ensemble en général autour d'un thème qui est très large évidemment, hein, qui nous permet de faire le lien avec les enseignements, ça donne une cohérence aussi à la saison. Et effectivement, les artistes qui travaillent en résidence ou qui viennent exposer chez nous sont au contact permanent de nos élèves. Les élèves, maintenant, ont l'habitude, hein, ils savent comment les artistes travaillent. Donc ça aussi, c'est super parce que ça donne aussi une vraie visibilité à ce qu'est le métier d'artiste, souvent considéré comme un petit peu nébuleux par le grand public. Et y a voilà, une vraie cohésion, une vraie symbiose en fait, qui se passe entre les deux. Et je crois qu'il nourrit les deux. Nous, les résidents, c'est vrai, au début, quand ils viennent, ils connaissent pas trop le principe. Ils sont, je dirais pas frileux, mais bon, ils se demandent comment ça va se passer. Et à 100%, hein, ils sont tous ressortis en nous disant, mais en fait, c'est magique, quoi. On travaille à proximité des élèves. On présente nos travaux avec les élèves qui passent au milieu pour aller prendre leurs cours et qui donc, du coup, font aussi évoluer leur regard en fonction de ce qu'ils voient, des échanges qu'ils peuvent avoir, parce qu'évidemment, ils échangent. Enfin, voilà, c'est vraiment très riche.
Il y a des rencontres formelles organisées entre les artistes qui exposent et les élèves?
Oui. C'est-à-dire que, alors, en général, ça se fait, bien évidemment, on peut pas les multiplier parce qu'on a quand même beaucoup d'élèves. Donc, ça va se faire de façon informelle, bien sûr, mais les façons formelles, ça va souvent se passer soit au moment des vernissages, soit au moment peut-être d'une petite soirée qu'on va organiser pour mettre en valeur tel ou tel aspect de la programmation de l'expo. Et donc là, effectivement, il y a un côté un peu plus formel qui se met en place. Mais comme on est dans l'échange quasiment quotidien, les choses se faisant naturellement, ça décomplexe énormément de choses. Donc c'est vraiment chouette.
Merci. Le centre d'art est intégré au réseau, on a cité l'ANEAT, mais vous êtes aussi, au titre de centre d'art, intégré au réseau métropolitain qui s'appelait Marseille Expo et qui s'appelle depuis peu Provence Art Contemporain. Bon,
oui.
Je ne sais pas s'il y a énormément d'écoles de pratiques amateurs. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'écoles de pratiques amateurs au sein du réseau PAC.
Non.
Parce que ce sont essentiellement des galeries, des centres d'art. Comment vivez-vous votre identité au sein du réseau qui est quand même peut-être un peu plus institutionnel, peut-être un peu plus art contemporain?
Alors, comment dire? Alors, moi, je me sens très bien, déjà. On est très heureux d'en faire partie parce que justement, hein, la richesse de ce collectif, c'est de faire se rencontrer effectivement différents acteurs du milieu de l'art contemporain. Voilà, que ce soit les galeries privées, les centres d'art publics. Nous, au niveau de la structure, ce qui peut être étrange peut-être dans certains réseaux, mais qui pour nous met très à l'aise, c'est qu'en fait, dans la mesure où on a vraiment ces trois missions d'enseignement, de diffusion de l'art, d'encouragement à la création, finalement, on tire un peu la casquette en fonction des réseaux dans lesquels nous sommes intégrés. Et par exemple, dans le PAC, moi, je me sens avant tout comme un centre d'art. Donc, je suis plutôt sur la partie professionnelle, en fait. Et donc, je pense qu'on y a toute notre place. D'autant qu'en fait, on est vraiment sur le même pied d'égalité dans les réflexions, dans les modes de diffusion aussi, hein, dans les échanges. Et même parfois, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on est mieux entendu que les géants, je mets des guillemets à géants bien sûr, on bénéficie d'une attention plus bienveillante aussi parce que ça vient du fait qu'on est des petites structures de terrain et que les grands ont aussi des choses à apprendre de ces structures. Donc je pense qu'il y a vraiment un respect sincère et mutuel entre les membres de ce réseau et le fait qu'on soit un centre d'art avec une activité un petit peu particulière qui mêle un petit peu pratique professionnelle, pratique amateur, etc. C'est avant tout une richesse et je ne me sens pas particulièrement, même pas du tout, mise à mal dans dans les échanges. Bien au contraire, hein, je pense qu'on y a toute notre place.
C'est très encourageant ce que vous dites et ce qu'on entend. Enfin, c'est encourageant, mais ça ne m'étonne pas. C'est simplement que c'est une belle chose en soi. Il faut dire aussi, et on peut préciser, que vous organisez aussi des résidences d'artistes. Ça, c'est le point que j'aimerais aborder. Bon, j'aimerais savoir évidemment si ces résidences interagissent avec l'enseignement artistique que vous prodiguez, et puis un peu de savoir quelles sont les conditions de résidence que vous proposez aux plasticiens.
Oui. Alors effectivement, donc les résidences, ça fait vraiment partie aussi intégrante du quotidien de nos missions. On organise à peu près entre 3 et 5 résidences annuelles hein, depuis 2013. Alors elles peuvent prendre des formes assez différentes, des formes entre guillemets longues, donc d'environ 3 mois hein, ou même parfois un peu plus, ou être des micro-résidences de quelques semaines. Donc en principe, au même titre que d'autres lieux d'accueil d'artistes, on attribue une allocation de résidence, donc qui va grosso modo... de 1 500 à 3 000 euros en fonction du format de la résidence, qui comprend les honoraires, la production. On a un logement aussi qui est prévu sur place. On fait de l'accompagnement au quotidien de ces artistes. Donc l'accompagnement, c'est les accompagner auprès de ressources locales pour qu'ils puissent alimenter leurs réflexions, leurs créations. C'est vrai quand ils débarquent à Port-de-Bouc, ils connaissent pas forcément. Donc on est vraiment les personnes ressources qui leur permettent de travailler. C'est vraiment pour nous alors des moments qui sont privilégiés, qui sont indispensables dans l'équilibre de la structure. Vous parliez tout à l'heure de la porosité avec les enseignements. Bah oui, forcément, puisqu'en fait l'atelier de création qui est mis à disposition des artistes qui viennent travailler, c'est un atelier partagé. C'est-à-dire qu'on a un très grand espace qui est le lieu privilégié des enseignements, des cours, et on a un petit espace dans ce grand espace dédié aux artistes. Et donc, en fait, de fait, ils sont directement associés à nos élèves. Et c'est vraiment chouette aussi pour eux parce que ça leur permet aussi de découvrir des nouvelles pratiques, des nouvelles matières aussi. À Port-de-Bouc, souvent, ils sont étonnés parce qu'on a un vivier de réflexion qui est parfois assez insoupçonné. Donc, les artistes sont vraiment contents. Et puis, ça donne aussi à voir à nos usagers, à la population en son ensemble. C'est ce que je disais tout à l'heure, la réalité du métier d'artiste dans des interactions que nous sollicitons régulièrement auprès de nos élèves, auprès des nouveaux collectionneurs, de la population au sens large, notamment avec les scolaires. Hein, on met aussi en place pas mal de choses avec les classes, que ce soit dans la pratique ou dans la théorie. Et puis, on fait toujours, en tout cas très régulièrement, des restitutions sous la forme d'expositions parce que pour nous, c'est un moyen de rendre vraiment concret tout ce qui s'est passé durant la période de recherche et qui peut très souvent, pour le grand public, paraître un peu abstraite. Donc oui, les résidences ont vraiment une place intégrée, de fait, à la programmation artistique d'ensemble. C'est une sorte de pierre angulaire hein, de nos missions. Et pour nous, c'est aussi une manière vraiment de manifester notre soutien concret et nécessaire à la création contemporaine. Et ça nous est cher.
Merci. Oui, si je comprends bien, c'est les deux parties sont en immersion. L'artiste est en immersion au sein de l'école et les étudiants sont quasiment en immersion au sein de l'atelier qui est aussi leur atelier. Si je résume.
Tout à fait, c'est ça, exactement.
La durée de la résidence, deux petites questions annexes par rapport à la résidence. Le temps de durée de résidence moyen à Port-de-Bouc et également, je voulais savoir si vous assuriez un petit suivi de post-résidence en fait.
Alors, donc les résidences, voilà, c'est entre 3 mois, 3, 4, 5 mois au plus long. Au plus court, ça va être 15 jours, 3 semaines. Alors, sur l'accompagnement post-résidence, c'est intéressant parce qu'en fait, pour être clair, on n'a pas encore formalisé clairement cet accompagnement. Donc, je dirais que non, on n'a pas d'accompagnement post-résidence véritable, mais de façon informelle. D'une part, on suit bien évidemment l'actualité des artistes qu'on a reçus, on reste en contact avec eux, c'est une certitude. Et puis, on essaye, tant bien que mal, justement, en suivant leur actualité aussi, de les mettre en contact avec éventuellement des appels à candidature qu'on aurait vus, d'autres structures, etc. Donc je dirais que c'est pas quelque chose qui est clairement identifié, mais que nous faisons, on va dire, de façon un peu informelle.
Et la manière dont vous avez organisé le format de résidence m'amène à vous poser une question annexe encore. J'ai que des questions annexes à vous poser.
Il n'y a pas de problème.
Pour que les choses se passent entre les élèves et l'artiste, est-ce qu'il y a un bon format de résidence dans le temps? Est-ce qu'il y en a un plus adapté que l'autre?
C'est très intéressant. Je dirais que non, parce que les deux ont leur intérêt. Quand on est sur une période longue, on a effectivement le temps de s'installer, on a le temps de tisser des liens, on a le temps de mettre en place des choses, donc on pourrait partir du principe que c'est ce format-là qui est le plus intéressant. Mais paradoxalement, quand on est sur des périodes qui sont aussi plus courtes, on l'anticipe évidemment, puisque là on sait que l'artiste aura beaucoup moins de temps sur place pour travailler, et on va en condenser, organiser des choses que peut-être, sur une période un peu plus longue, où là on se dit on a le temps, où c'est un peu plus infusé, là on les formalise en fait, de façon assez concrète, on prend vraiment des rendez-vous, que ce soit avec les classes, on fait des petites vidéos pour présenter les artistes quand les classes peuvent pas se déplacer, quand nous, avec nos professeurs, on est amené à aller directement dans les écoles. Enfin, y a tout un travail qui est peut-être un petit peu différent et qui est tout aussi intéressant. Donc honnêtement, les deux formats, pour nous, ont de l'intérêt au niveau du suivi qu'on peut faire avec nos élèves. C'est pas le même travail.
Merci, c'est passionnant. J'aimerais qu'on poursuive et on poursuivra à un autre endroit, à un autre moment. Alors,
Mais
le format de l'émission est déterminé, il faut qu'on avance.
Oui.
Évidemment, au bout de 30 minutes d'entretien avec vous, je suis obligé, dans le contexte actuel, de vous poser la question qui fâche, mais la question centrale que tout le monde se pose. On est toujours dans le cadre d'une situation d'urgence, une crise sanitaire. Quel est votre état d'esprit? Ça fait quand même maintenant plusieurs mois que ça dure. À la fois votre état d'esprit, puis quelle est la perception que vous avez sur la motivation? Parce que je vois ça de loin, bien sûr, et je perçois des choses de très loin, mais j'imagine que la plus grande difficulté aujourd'hui pour une responsable d'établissement, c'est de maintenir une motivation chez les enseignants. On n'en a pas beaucoup parlé. Quasiment pas chez les élèves. Comment faites-vous ?
Tout à fait. Alors, je vous cache pas, c'est très dur. on est dans un état d'esprit qui est à la fois fatigué, conscient des difficultés sanitaires, hein, bien sûr, on reviendra pas là-dessus, mais assez lassé et en même temps très optimiste parce que vous l'avez très bien dit, hein, en tant que responsable, il faut bien qu'on donne une ligne de conduite qui permette de motiver les troupes. Alors donc au niveau de l'école d'art, hein, pour faire au moins un petit état des lieux de ce qui se passe avant de parler des perspectives, on a évidemment pu reprendre nos cours que pour les mineurs, hein, et encore avec le couvre-feu, ça a été très compliqué. Donc ça veut dire que même si on peut aussi poursuivre nos missions auprès de l'éducation nationale, ça on le pouvait déjà, ça veut dire que pour le reste de nos cours, par exemple, hein, les adultes, on demeure en visioconférence. Donc ça commence vraiment à être pesant pour les professeurs. Alors pour les élèves, bien sûr, parce que rester chez soi et suivre un cours sur son ordinateur, on est bien tous d'accord pour considérer que c'est pas du tout la même chose. On n'y fait pas d'ailleurs la même chose. Mais pour les professeurs, c'est très compliqué parce que ça veut dire qu'ils doivent vraiment déployer des trésors d'inventivité, souvent en des temps records. Il y a beaucoup de temps de préparation, ça on n'en parle pas beaucoup, mais il faut savoir que le temps de préparation pour un cours en distanciel est deux fois supérieur à un cours en présentiel. Et donc là, on sent qu'ils commencent un petit peu à fatiguer. Alors bon, on est là pour évidemment remotiver les troupes comme on peut, mais c'est vrai que on peut pas non plus, on n'a pas de boule de cristal, hein, donc on peut pas non plus leur dire des choses qui ne seraient pas. Donc on continue comme ça, on reste optimiste. Ce qui est pour les élèves un peu plus compliqué aussi, c'est que au niveau de la structure, on craint évidemment des nouvelles défections dans le courant de l'année, parce que certains ont suivi les cours au départ en visio, et puis au bout d'un moment, on se lasse, c'est pas agréable, on n'est pas tous ensemble, tout ça. Et puis aussi pour l'an prochain. C'est-à-dire que là, concrètement, je parlais déjà de 30% d'inscriptions en moins à la rentrée de septembre 2020. Qu'en sera-t-il pour 2021 ? C'est pour nous pas évident. Après, au niveau de la programmation artistique, d'exposition, tout est prêt jusqu'à l'été. On a volontairement laissé un peu d'espace pendant l'été parce qu'on avait anticipé que peut-être il y aurait des choses à décaler. Donc là, on jongle avec les annonces gouvernementales. Là, c'est vrai qu'on attend d'ici quelques minutes ce qui va nous être dit. Actuellement, on a toujours une exposition de Didier Petit qui s'intitule Le Voyage. Il faut savoir qu'elle a ouvert sans public le 20 novembre. Elle aura donc pas pu être vue du grand public à part pour quelques visites autorisées de centres de loisirs et puis des visites professionnelles. Voilà, on a déployé beaucoup d'énergie, on a fait des captations vidéo qui ont très bien fonctionné, on a eu plus de 4000 vues sur une visite virtuelle d'exposition, ce qui est très chouette, on a fait le maximum, mais bon, évidemment, ça demeure pas ce qu'il y a de plus adapté pour la valorisation des arts visuels. On a finalement que les résidences qui peuvent continuer, puisque on a au moins le droit d'accueillir les artistes dans la structure à titre professionnel. Voilà, donc là, pour la perspective, on attend un petit peu ce qui va nous être dit. On échange aussi régulièrement avec nos pairs. On a parlé des réseaux tout à l'heure, la NEAT, le PAC, Art en Résidence, heureusement. On échange pas mal d'informations, des pratiques. On se rend compte qu'on est d'ailleurs souvent sur la même longueur d'onde, donc on se rassure. Je pense que globalement aussi, il ne faut pas être négatif en bloc. On gardera du positif de la situation parce qu'on a aussi fait évoluer certaines pratiques qui sont intéressantes et notamment sur le suivi numérique des actions via les réseaux sociaux, via YouTube, puisqu'on avait créé notre chaîne aussi au moment du premier confinement pour déployer la visibilité. Donc voilà. Évidemment, tout ça, ça devra pas prendre le pas sur le contact physique, évidemment. Mais on est un peu dans l'expectative, on est un peu fatigué, on en a marre, mais on reste optimiste. Voilà, il le faut.
Merci Laure, merci beaucoup. L'émission est finie, elle touche à sa fin. Je voulais encore vous remercier, rappeler aux auditeurs que vous dirigez le Centre d'art de Port-de-Bouc. Donc le Centre d'art Fernand Léger qui accueille des élèves, comme vous l'avez dit, des artistes en résidence et des expositions d'artistes. L'échange est important, vous l'avez rappelé, on a bien fait de le rappeler. Merci Laure.
Merci infiniment de m'avoir donné cette tribune, c'était passionnant, merci beaucoup.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.